بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا إلى الحديث العاشر ولله الحمد. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et aujourd'hui nous sommes arrivés au hadith numéro 10. Donc on va commencer d'abord la lecture du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروه إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك والحديث رواه مسلم رحمه الله. Donc d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah azza wa jal est bon et n'accepte que ce qui est bon. En outre, Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux envoyés. Et Allah azza wa jal a dit: Ô vous les prophètes, mangez les bonnes choses et faites le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, ô vous qui avez cru, mangez ce que nous vous avons attribué comme bonne chose et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala si vous l'adoriez. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna le cas de l'homme qui, prolongeant son voyage, les cheveux défaits, poussiéreux, tend les mains vers le ciel en s'écriant, ô Seigneur, ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri de choses illicites. Comment sera-t-il exaucé? Hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. فَنَبْدَى بِتَرْجَمَةِ رَوِي الْحَدِيثِ وَرَوِي الْحَدِيثِ هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ صَخْرٍ الدوسي من قبيلة الدوس إحدى قبائل اليمن. Donc commençons d'abord par la biographie du rapporteur du hadith. Et le rapporteur du hadith, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdul Rahman ibn Sakhr, de la tribu de Daws, qui est une des tribus du Yémen. وكان في الجاهلية يسمى عبد شمس فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيته أبو هريرة وكان قومه يلقبه بها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلقبه بأبي هر. Et Abu Hurayra رضي الله عنه était appelé avant qu'il ne soit musulman عبد شمس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abdul Rahman après la conversion de Abu Huraira radiyallahu anhu. Et sa kunya est Abu Huraira radiyallahu anhu. Ainsi son peuple le surnommait Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait ainsi Abihir dans beaucoup de hadiths. دخل الإسلام سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر وكان عمره حين ذاك نحو من ثلاثين سنة فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة رغبة في العلم. Et Abu Huraira رضي الله عنه s'est converti la septième année après l'hégire du prophète صلى الله عليه وسلم. Après الحديبية et au moment de la conquête de Khaybar. Donc Abu Hurayra radiyallahu anhu est rentré dans l'islam la septième année. Abu Hurayra radiyallahu anhu a tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant quatre ans. Et au moment de sa conversion, il avait une trentaine d'années radiyallahu anhu, et il a immigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue, et pour rechercher la science. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع والحديث رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه faisait partie des gens de Suffa. C'était des gens qui vivaient dans la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم et qui n'avaient ni maison et ni bien particulier. Et Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, comme ceci est rapporté dans Sahih Bukhari, il dit par Allah, je m'appuyais ventre à terre du fait de la faim que je ressentais, et j'attachais une pierre contre mon ventre à cause de la faim. Walahu radiallahu anhu manaqibu kathiratun. Et Abu Hurayra radiallahu anhu a beaucoup de mérite. Min manaqibihi mulazamatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites de Abu Hurayra radiallahu anhu, c'est sa compagnie assidue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Abu Hurayra radiallahu anhu. Yaquluna inna Aba Hurayra yukthiru al-hadith an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al-maw'id. Ay wallahu yuhasibuna wa yuhasibuhum ala ma naqul. Yaquluna ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ويقول أبو هريرة وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السقف بالأسواق أي البيع والشراء وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم كانوا أصحاب زراعة وكنت امرئ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا والحديث رواه البخاري. Donc Abu Hurayra رضي الله عنه nous dit, les gens disent que Abu Hurayra rapporte beaucoup de hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il dit, Allah Azza wa Jal nous jugera tous pour nos propos. Ils disent, pourquoi les muhajirin et pourquoi les ansar ne rapportent-ils pas autant de hadiths qu'Abu Hurayra? Et Abu Hurayra, radiallahu anhu, dit, mes frères les muhajirin étaient occupés par le commerce dans les marchés. Et mes frères les ansar étaient occupés par les richesses et les terres à cultiver. Et il dit, quant à moi, j'étais une personne très pauvre. Et je restais constamment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. J'étais présent lorsque eux étaient absents et je retenais par cœur alors que eux ils oubliaient. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. ومن مناقبه حرصه على معرفة الخير وفعله. Parmi les mérites de Abu Huraira رضي الله عنه, c'est son souci, sa motivation à connaître le bien et à le mettre en pratique. يقول أبو هريرة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. انظروا إلى حرص أبي هريرة ليعرف الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والحديث أخرجه ابن حبان. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, lorsque je te vois, mon âme s'apaise et mes yeux se remplissent de joie. Informe-moi, ô prophète d'Allah, d'un acte que si je l'accomplis, je rentrerai au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, répands le salam, nourris les gens et maintiens les liens de parenté et prie la nuit alors que les gens dorment, tu entreras au paradis en paix. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. ومن مناقبه رضي الله عنه حرصه على الحديث وطلب العلم. Parmi les mérites de Abu Hurairah رضي الله عنه, c'est sa motivation, son souci pour connaître les hadiths, apprendre les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم et de rechercher le savoir et la science. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه الحديث رواه البخاري Abu Hurayra radiyallahu anhu dit, ô prophète d'Allah, qui sera le plus heureux de ton intercession le jour de la résurrection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, écoutez, j'étais sûr qu'avant toi, personne ne me poserait cette question, vu ton désir ardent et ton souci pour le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la personne la plus heureuse qui profitera de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dit « La ilaha illallah » avec sincérité et conviction du cœur et de son âme. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. « وَمِنْ مَنَاقِبِهِ حِرْصُهُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ » Parmi les mérites de Abu Hurayra radiyallahu anhu, c'est son souci d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ceci est une qualité du croyant. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم يتوضؤون فقال لهم أسبغوا الوضوء أي أكملوه كأنه رأى منهم تقصيرا خشي عليهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار والحديث رواه مسلم Une fois أبو هريرة رضي الله عنه est passé devant des gens, et ils accomplissaient l'wudu. Et Abu Hurayrata, radiyallahu anhu, leur a dit, Asbirul wudu, faites parfaitement les ablutions. C'est comme s'il avait vu un manquement chez eux dans leur façon de faire les ablutions. Et il avait peur pour eux de cette chose. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai entendu Abul Qasim, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, que ceux qui ne se lavent pas parfaitement les talons pendant l'wudu redoutent l'enfer. Et redoute le feu de l'enfer. ومن حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه استقبل أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة فقال لها أبو هريرة أين تريدين يا أمة الجبار فقالت المسجد فقال وله تطيبت قالت نعم فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها للجنابة والحديث في مسند الإمام أحمد Et aussi parmi les paroles et les histoires qui montrent qu'Abu Hurayra رضي الله عنه était soucieux d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, c'est qu'une fois il rencontra une femme parfumée. Il lui a dit, où vas-tu? La femme lui a dit, je vais vers la mosquée. Il lui a dit, c'est pour cette raison que tu t'es parfumé? La femme lui a dit, oui. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui sort de chez elle parfumée en allant à la mosquée, Allah n'accepte pas sa prière jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle et qu'elle fasse le lavage comme on se lave pour le janab. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في كتب الحديث 5374 حديثا، منها 608 في الصحيحين. Et Abu Huraira radiallahu anhu, c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté 5374 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 608 se retrouvent dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Regardez, il s'est converti à l'islam la 7e année, il est resté 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 ans. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui nous a ramené le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était assidu à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était assoiffé de science. Radiyallahu anhu. Wa tuwfiya radiyallahu anhu sanata 58 ou 59 fil madinati wa dufina fil baqiyah. Radiyallahu ta'ala anhu. Et Abu Hurayra radiallahu anhu est mort la 58e ou la 59e année de l'Hégire, et il a été enterré à Médine, dans le cimetière de l'Baqir. هذا فيما يتعلق بترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. Donc ceci concerne la biographie de Abu Hurayra radiallahu anhu, عبد الرحمن ibn Sakhr. ثانيا منزلة الحديث. Nous allons voir maintenant l'importance du hadith. Pourquoi ce hadith est tellement important que les hommes de science s'en préoccupent et que l'imam Nawawi rahimahullah l'a cité et mentionné dans son livre Al-Arba'in al-Nawawiyyah. هذا الحديث له شأن عظيم فهو من قواعد الدين. Ce hadith est un hadith extrêmement important car il est et il fait partie des fondements de notre religion. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ابن دقيق العيد رحمه الله dit ce hadith est l'un des hadiths autour duquel reposent les fondements de l'islam et autour duquel gravitent les règles religieuses. Comme on va le voir maintenant. ثالثا ما يستفاد من هذا الحديث. Quelles sont les leçons à retenir de ce hadith? Et nous allons citer 21 leçons. 21 points à retenir concernant ce hadith. اولا ان من اسماء الله تعالى الطيب ومعناه المنزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى. فالله تعالى طيب في ذاته، فالله طيب في أسمائه وصفاته، فالله طيب في أفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que الطيب fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez tous qu'Allah azza wa jal a des noms et il a des attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et at-tayyib, ça veut dire le bon, c'est-à-dire celui qui est exempt de tout défaut. Alors Allah subhanahu wa ta'ala est bon dans son essence. Allah azza wa jal est bon dans ses noms, dans ses attributs. Allah est bon dans ses actes, dans ses agissements. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bon dans sa législation. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. » الفائدة الثانية أن من صفات الله تعالى الطيبة لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que parmi les attributs d'Allah عز وجل, il y a الطيب. C'est qu'Allah عز وجل fait preuve de bonté. Et il faut savoir que tout nom d'Allah Azza wa Jal implique une qualité et un attribut. Et ceci est la voie et la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a. Tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala implique une qualité, mais toute qualité, toute sifa, n'implique pas un nom d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Allah Azza wa Jal, min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Alim, le savant. Ceci implique qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède Al-Ilm. Allah Azza wa Jal possède la science qui n'est pas précédée par une ignorance. Et qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala, comme il lui convient. Thalithan, أن الأعمال تنقسم إلى أعمال مقبولة وأعمال مردودة أي من الأعمال ما يقبلها الله سبحانه وتعالى ومنها ما لا يقبلها الله تبارك وتعالى وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Troisième leçon à retenir, c'est que les œuvres, les actes, les actions se divisent en deux catégories. Il y a les actions et les œuvres qui sont acceptées et les œuvres et les actions qui sont refusées. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qu'Allah Azza wa Jal accepte et d'autres qu'Allah Azza wa Jal rejette, subhanahu wa ta'ala. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et Allah n'accepte que ce qui est bon ». Al-fa'idatu al-rabi'a, أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موصوفا بالطيب وهذا عام في جميع الأعمال فعلى المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب والإنفاق وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا. Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'accepte des œuvres que les œuvres qui ne sont bonnes. Et ceci est valable pour tout acte et pour toute œuvre. C'est pourquoi il incombe aux musulmans, lorsqu'il fait des œuvres, qu'il fasse que des bonnes œuvres. Et lorsqu'il gagne des gains, qu'il ne gagne que des choses licites. Et lorsqu'il dépense, qu'il ne dépense que des bonnes choses. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et Allah n'accepte que ce qui est bon ». Par exemple, lorsque l'acte est entaché de shirk, alors cet acte n'est pas accepté parce qu'il n'est pas bon. Lorsque une personne fait une sadaqa avec de l'argent volé, sa sadaqa ne sera pas acceptée parce que la sadaqa volée n'est pas bonne. Lorsque une personne fait une sadaqa avec quelque chose qui est haram, une personne fait une sadaqa, il donne du porc en sadaqa. Cette sadaqa-là ne sera pas acceptée, car Allah n'accepte que ce qui est bon. Subhanahu wa ta'ala. Ceci est une règle qui s'applique à toute chose. Khamisan. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursaleen. Faqala ta'ala, ya ayyuhal rusul, kulu min at-tayyibati wa a'malu saliha. وقال تعالى في شأن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا يدل على الاتصال الشديد بين الحلال وبين العمل الصالح وعلى أن العمل لا يقبل إلا بأكل الحلال وأن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. Cinquième leçon à retenir, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et Allah Azza wa Jal a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes. Et ensuite, le prophète sallam a cité le verset où Allah dit « Ô vous les prophètes, mangez des bonnes choses et accomplissez des bonnes œuvres. » Et il a cité la parole suivante concernant les croyants « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses qu'on vous a octroyées. » Ceci prouve la relation forte qu'il y a entre le licite, al-halal, et les bonnes actions. C'est-à-dire que l'action n'est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'on mange une chose licite. Et que l'illicite, le haram, corrompt l'acte et empêche que l'acte soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu sadisa, anna ar-rusula alayhimus salatu wassalam مكلفون يؤمرون وينهون، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Sixième leçon à retenir, c'est que les prophètes, alayhimu salatu wa salam, reçoivent des ordres qu'ils doivent exécuter. Et de même, Allah Azza wa Jal leur interdit des interdictions qu'ils doivent délaisser. Et ceci se trouve dans la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Et Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes. » Donc il y a des choses qui ont été prescrites aux prophètes. سابعاً أن المؤمنين مكلفون مأمورون ومنهيون لقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Septième leçon à retenir, c'est que les croyants et les croyantes reçoivent aussi des ordres qu'ils doivent exécuter, au même titre que les prophètes, et ils reçoivent aussi des interdictions qu'ils doivent délaisser. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: et Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes. Donc Allah azza wa jalla a bien prescrit aux croyants des choses. ثامنا في هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال لأن هذا فعله الأنبياء. Huitième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une tournure nous encourageant et nous incitant aux bonnes œuvres. Ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: et Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit au prophète. Ainsi le croyant et la croyante, lorsqu'ils sauront que telle chose fait partie de ce que les prophètes alayhi salam ont fait, alors ceci va l'encourager, ceci va le motiver à faire ce que les prophètes alayhi salam ont fait, pour se retrouver avec eux et pour les imiter et être sur leur chemin. تاسعا أن الله تعالى أمر المرسلين والمرسل إليهم أن يأكلوا من الطيبات وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب فإن على أتباعهم ألا يأكلوا إلا طيبا. Neuvième leçon à retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes et à leur peuple de ne consommer et de manger que des bonnes choses. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: et Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes. Donc de même qu'Allah azza wa jal a prescrit aux prophètes de manger des bonnes choses, de la même manière Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ceux qui suivent les prophètes de manger que des bonnes choses. Al-fa'idatul ashira. تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم. Dixième leçon à retenir. On voit bien qu'Allah Azza wa Jal a comblé ses serviteurs de bienfaits. Et tous les bienfaits ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on voulait compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont indénombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الفائدة الحادية عشر أنه يجب شكر نعم الله تعالى بالعمل الصالح وهذا في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ولقوله في شأن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Onzième leçon à retenir, c'est qu'il y a obligation de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, et ceci en accomplissant des bonnes œuvres. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux prophètes: ô vous les prophètes, mangez des bonnes choses et accomplissez des bonnes œuvres. Et pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous avons attribuées et remerciez Allah si vous l'adorez. الفائدة الثانية عشر أن الشكر هو العمل الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين والذي أمر به المؤمنون والمرسلون شيئان العمل الصالح والشكر لله فالشكر لله هو العمل الصالح. Douzième leçon à retenir, c'est que le remerciement à shukr, c'est al-amal al-salih, c'est le fait de faire des bonnes actions. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jalla a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes. Et quelle est la chose ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes et aux croyants? Il s'agit de deux choses. Al-amal al-salih, Allah dit au prophète, wa'amal al-saliha, et faites des bonnes actions. Et الشكر لله. Il dit aux croyants واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Et remerciez Allah si c'est vraiment Allah que vous adorez. Donc العمل الصالح, la bonne action, c'est le fait de remercier Allah سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة عشر يجوز توجيه الأمر لمن هو متصف به وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم واعملوا صالحا في القرآن الكريم فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات وهذا تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. Troisième leçon à retenir, c'est qu'il est permis d'ordonner le bien, de conseiller le bien, d'exhorter le bien à des personnes même si elles l'accomplissent. Regardez, ceci se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal et cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'Allah dit « Ô vous les prophètes, mangez des bonnes choses et faites des bonnes actions. » Allah ordonne aux prophètes de faire des bonnes actions. Et tout le monde sait que les prophètes alayhi sallam sont ceux qui exécutent les ordres d'Allah et accomplissent les bonnes actions. Et ceci est en fait un encouragement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les prophètes pour qu'ils persistent et pour qu'ils continuent dans cette lignée. Donc lorsqu'une personne nous encourage à faire le bien, faut pas se sentir visé et penser que cette personne a de mauvaises pensées sur nous. Personne nous encourage certainement à faire du bien. Et dans tous les cas, le conseil est bienvenu chez le musulman. الفائدة الرابعة عشر تحريم الخبائث وهذا لقوله تعالى كلوا من الطيبات وقوله في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم والخبائث هي ما استخبثه الشرع لا البشر فالمرجع في معرفة الخبائث إنما هو الشرع. 14 leçon à retenir, c'est que dans notre religion les mauvaises choses sont interdites. Et ceci se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et manger des bonnes choses. Ça sous-entend que les mauvaises choses sont interdites. Et aussi, lorsque Allah Azza wa Jal dit au prophète, et manger des bonnes choses que vous nous avons données. Ça sous-entend que les musulmans doivent délaisser les mauvaises choses. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est al-khaba'ith, les mauvaises choses, c'est tout ce que notre religion et tout ce que la sharia, tout ce que les textes du Coran et les hadiths du prophète sallam a considéré comme tel, comme khabaïf, comme mauvais. Et en aucun cas on doit revenir à notre raison ou bien aux avis des uns et des autres. Parce que les goûts et les couleurs divergent. Donc, pour savoir si une chose est bonne ou mauvaise, on revient au texte. Parce que si on revient aux gens d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, une chose peut être bonne pour une personne et mauvaise pour une autre. الفائدة الخامسة عشر أن لإجابة الدعاء أسبابا كما أن لمنع إجابة الدعاء أسبابا وأن الدعاء له آداب ينبغي مراعاتها. 15e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que les du'a, les invocations, ont des causes d'acceptation. De même que les du'a, les invocations, ont des causes qui empêchent que cette invocation soit acceptée. Et de même que les invocations ont des règles de politesse à respecter lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة السادسة عشر أن السفر وكون الداعي أشغث أغبر من أسباب إجابة الدعاء وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. 16e leçon à retenir, c'est que le voyage en islam, le long voyage, et le fait que la personne, à cause du voyage, se retrouve dans des vêtements poussiéreux, ou se retrouve mal coiffée, fait partie des causes, des facteurs avec lesquels la dua sera exaucée. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, et il mentionna le cas de l'homme qui fait un long voyage et qui a les cheveux défaits et qui est tout poussiéreux. Et ensuite cet homme va faire dua. الفائدة السابعة عشر أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء وهو مشروع ما ورد فيه عدم الرفع كرفع الأيدي في الدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يمد يديه إلى السماء. La 17e leçon à retenir, c'est que le fait de lever les mains lorsqu'on fait les du'as fait partie des facteurs qui font que la du'a va être exaucée. Et lever les mains en islam pendant la du'a, c'est légiféré. Ce n'est pas une innovation religieuse. Et ceci est légiféré tant que les textes nous disent que telle situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé les mains. Si dans une situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé les mains pendant qu'il faisait du'a, alors le musulman ne lève pas les mains. Ou sinon, dans toute autre situation, al-asl, la base, c'est de faire les du'a en levant les mains. Comme par exemple, lorsque c'est le jour du vendredi, aussi bien l'imam, al-khatib, celui qui fait le sermon, et aussi bien les gens qui écoutent, lorsqu'il y a une du'a, personne ne doit lever les mains. Ni le khatib, ni les gens qui écoutent. Sauf si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre la pluie le jour du vendredi. Parce que ceci a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة الثامنة عشر أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية وأسمائه تعالى وهذا في قوله يا رب يا رب. 18e leçon à retenir, c'est que parmi les causes qui font que la du'a sera acceptée, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant recours ou par l'intermédiaire à sa seigneurie et à ses noms. Comme lorsque l'homme a demandé dans le du'a, il a dit « Ya Rab, Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur. » الفائدة التاسعة عشر أن أكل الحرام ومشرب الحرام وملبس الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك أي متى وكيف يستجاب لذلك. 19e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que manger du haram ou les boissons illicites ou les vêtements illicites sont des causes qui empêcheront le du'a, l'invocation, d'être exaucée. Donc il y a des causes, comme on a cité précédemment, qui font que le du'a sera accepté, mais il y a aussi des causes, des facteurs, qui font que le du'a ne sera pas accepté. Et il y en a d'autres qui sont cités dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'homme dont les vêtements étaient illicites, dont la nourriture était illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Anna yustajabu lahu ». Comment cet homme pourra-t-il être exaucé? Comment ses invocations seront-elles exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala? الفائدة العشرين التحذير البالغ من أكل الحرام لأنه من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له أو فأنى يستجاب لذلك. 20e leçon à retenir concernant ce hadith. C'est ici, il y a une mise en garde ferme contre le fait de manger de la nourriture illicite. Parce que manger de la nourriture illicite fait partie des causes qui font que le dua ne sera pas accepté. Même si d'autres facteurs qui font que le dua est accepté sont réunis. À cause du fait de manger de la nourriture haram, le dua ne peut pas être accepté. Ou risque de ne pas être accepté. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, après avoir cité l'homme dont la nourriture, les vêtements, la boisson est illicite, il dit comment cet homme sera-t-il accepté et exaucé. Al-fa'idatul akhira. حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه الأمثال وتوضيحها فكذلك ينبغي للعالم والمعلم والمربي والأب والأم أن يضرب الأمثال للتوضيح والبيان. 21e et dernière leçon que nous allons citer concernant ce hadith, c'est que dans ce hadith, il y a un bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il donne dans ce hadith un exemple pour expliquer, pour éclaircir un point. Pour expliquer que la dua ne peut pas être acceptée lorsqu'on mange la nourriture haram, lorsqu'on se vêtit de vêtements haram, lorsqu'on boit des boissons haram. Il utilise cet exemple pour montrer et expliquer ce point. Et donc il est bon et il convient aux savants, au professeur, au père de famille, ou à la mère de famille, ou à toute personne ayant une responsabilité ou enseignant aux autres, il convient d'utiliser des exemples pour expliquer et pour éclaircir certains points. Parce qu'avec les exemples, les choses s'éclaircissent. هذا فيما يتعلق بفوائد الحديث. Voilà pour ce qui était des leçons à retenir concernant ce hadith, et nous lisons une dernière fois le hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم رحمه الله. Abu Hurayra رضي الله عنه rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jal est bon et n'accepte que ce qui est bon. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux prophètes. Allah azza wa jal dit à propos des prophètes: ô vous les envoyés, mangez les bonnes choses et faites le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les croyants: ô vous qui avez cru, mangez de ce que nous vous avons donné comme bonne chose. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna le cas de l'homme qui, prolongeant son voyage, les cheveux défaits, dans un état poussiéreux, tend les mains vers le ciel en disant: ô Seigneur, ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, alors que sa boisson est illicite, alors que ses vêtements sont illicites, et alors qu'il est nourri de choses illicites, comment sera-t-il exaucé? Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.